Le journal sur France Inter de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
L'actualité ce matin, ce sont les Européens aux urnes. 21 pays vont choisir aujourd'hui leurs représentants au Parlement européen. Un scrutin en France sous haute surveillance policière après l'explosion de vendredi à Lyon.
Et puis, dans le reste de l'actualité, les Gilets jaunes avaient choisi hier la ville d'Amiens, hier après-midi, pour leur 28e samedi de mobilisation. Amiens, la ville d'Emmanuel Macron, entre 1000 et 2000 manifestants, une centaine de black blocs et des vitrines cassées. Dans ce journal, nous reviendrons sur la Palme d'Or du Festival de Cannes, remise pour la première fois à un film sud-coréen. Coup d'envoi ce dimanche des internationaux de France à Roland-Garros. Et puis, nous irons à Hawaï, où une jeune femme qui s'était perdue en forêt a été retrouvée vivante 2 semaines après sa disparition.
L'invité à partir de 8h20, le journaliste et écrivain Eric Fotorino. On va évoquer avec lui la nature, notre rapport à la nature. C'est le thème du prochain numéro de Zadig, ce trimestriel créé donc par Eric Fotorino.
France Inter.
Élection européenne H-1 heure. Dans une heure, les bureaux de vote ouvriront donc ce matin et fermeront entre 18h et 20h selon les communes. Sachez que vous enverrez cette année 79 eurodéputés français, soit 5 de plus qu'en 2014. Après la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, les 5 derniers élus devront toutefois attendre que le Brexit soit effectif pour siéger. Alors ce scrutin européen sera sous haute surveillance policière, des mesures de sécurité renforcées, notamment à Lyon, 48 heures après l'explosion du colis piégé. Lyon, mais pas seulement, Emmanuel Leclerc, tout le territoire est concerné par ces mesures.
Ce sont par exemple plus de 30 000 gendarmes, y compris des réservistes qui seront déployés sur l'ensemble du territoire avec des consignes spéciales liées évidemment au risque terroriste, mais également face au risque d'intrusion de gilets jaunes dans des bureaux de vote. L'objectif est de multiplier les patrouilles dynamiques près des mairies et des écoles par exemple et de placer à chaque fois des équipes d'intervention pour des renforts rapides au cas où. Des équipes spécialisés sont également mobilisés pour cette journée de vote avec des hélicoptères et des drones. Aucune région n'est particulièrement signalée par les services de renseignement pour des coups d'éclat de manifestants, mais le dispositif a pour but de dissuader la moindre tentation de perturber le scrutin. Là où les mesures de sécurité seront les plus draconiennes, ce sera évidemment à Lyon. Le préfet du Rhône a annoncé un déploiement massif de policiers et de gendarmes en lien avec la traque du suspect à l'origine de l'attentat de vendredi après-midi et le risque de le voir passer de nouveau à l'acte.
Alors à Lyon justement, un ADN a été retrouvé sur les restes de ce colis piégé qui a fait 13 blessés un vendredi en fin de journée. Mais un ADN qui pour l'instant n'a pas parlé. On sait aussi que l'explosif utilisé en faible quantité est du TATP, le même qu'en novembre 2015 pour les attentats de Paris. Les enquêteurs comptent maintenant sur d'éventuels témoignages après la diffusion de nouvelles photos du suspect.
À la veille des européennes, donc la mobilisation des gilets jaunes hier contre la politique sociale et fiscale d'Emmanuel Macron, cette mobilisation a continué hier à s'effriter.
Pour leur 8e samedi consécutif de manifestation. Ils étaient environ 12 500 dans toute la France, dont 2 100 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais c'est la ville d'Amiens qui était hier l'épicentre de la colère jaune. Amiens, la ville de naissance du président de la République, près de 1 500 personnes dans les rues de la capitale Picarde. Après une matinée plutôt calme, l'acte 28 a vite dégénéré dans l'après-midi. Clémence Gourdon-Négrini.
Vers 14h, les manifestants repartent du parc de la Haute-Oie, bien plus nombreux qu'à leur arrivée dans la matinée. Et à peine une demi-heure après son départ, le cortège se fiche devant le cirque Jules Verne. C'est là que les premiers projectiles, des pavés, sont lancés en direction des forces de l'ordre. La police répond par des gaz lacrymogènes. Puis le cortège repart et la tension monte encore d'un cran. Les manifestants arrivent à la hauteur de la gare face à des forces de l'ordre rapidement dépassées sous les jets de projectiles de plus en plus nombreux et dangereux. Puis le cortège s'engouffre rue Jules Barni. Des poubelles sont incendiées, de nombreuses vitrines de banques et d'assurances sont brisées. En milieu d'après-midi, les manifestants se dispersent. Ils tentent de semer les forces de l'ordre et finissent par s'engouffrer dans le centre-ville. C'était la plus grande crainte de la préfecture. Elle a dénombré environ 100 black blocs et 600 personnes au comportement hostile. 132 ont été interpellés en tout et 11 étaient toujours en garde à vue hier soir. D'autres seront convoqués par la justice dans les semaines à venir.
Clémence Gourdon-Négrini. Le Festival de Cannes s'est refermé hier soir. Il a sacré de sa palme d'or pour la première fois un film sud-coréen, Parasite, de Bong Joon-ho. Une palme d'or remise, une fois n'est pas coutume, à l'unanimité du jury. Alors Parasite est un sujet grave et vabétant, mais traité de manière très créative.
Bong Joon-ho le raconte, il a été stupéfait quand Inarritu lui a dit que le jury s'était mis d'accord sur son film à l'unanimité. Peut-être est-ce parce que ce film allie le fond et la forme. Deux familles, l'une pauvre, vit dans un sous-sol et une famille de riches de la nouvelle économie habite une villa moderne. Aucune raison de se rencontrer, sauf si les uns se proposent pour fournir toutes sortes de services à la personne, comme on dit aux autres, quitte à embellir un peu leur CV. Bong Joon-ho.
Je voulais montrer ces différences entre classes sociales, mais surtout exprimer mon angoisse par rapport à l'avenir. Cet écart entre classes sociales ne cesse de s'accroître. Est-ce qu'on arrivera à améliorer la situation? Je voulais retranscrire cette angoisse et cette peur.
Le propos est sérieux et la forme pleine de fantaisie. Bong Joon-ho passe d'un genre à un autre avec virtuosité, la fable, la farce, le gore même avec une bonne dose d'humour noir. Son film a encore une autre qualité et non des moindres. C'est certes du cinéma d'auteur, mais c'est aussi du spectacle et un spectacle qui peut plaire à un public jeune. À Cannes, Eva Bétan, France Inter.
Autre récompense, le prix d'interprétation féminine à Emily Bicham pour Little Joe et masculine à Antonio Banderas pour Douleur et gloire, le film d'Almodovar.
Et le réalisateur Lajli, prix du jury pour le film Les Misérables, qui sera notre invité à partir de 7h50. Le sport avec le tennis, le début ce dimanche du tournoi de Roland-Garros.
Et cette première journée sera surtout marquée par l'entrée en lice de Roger Federer, numéro 3 mondial, vainqueur en 2009, dont c'est le grand retour porte d'Auteuil, où il n'a plus joué depuis 2015. À suivre aussi cette année, le jeune et très prometteur Félix Auger-Aliassime. Il était il y a un an 178e mondial, aujourd'hui le Canadien est 22e. Il sera cette année l'une des principales attractions de Roland-Garros, son portrait signé Fabrice Abgral.
Félix Auger-Aliassime est né un 8 août, comme un certain Roger Federer. Personne ne sait si ce Canadien, né en 2000 à Montréal, d'une mère québécoise et d'un père togolais, aura la même carrière que son glorieux aîné, mais Félix Auger-Aliassime a déjà tout pour plaire. Une gueule d'ange, un tennis aussi complet que spectaculaire, et surtout à bientôt 19 ans, il fait preuve d'une humilité et d'une maturité étourdissante.
D'un jeune âge, on me compare à de très grands, donc c'est difficile à un jeune d'avaler. Après, j'ai eu la chance d'avoir des très bons parents, des très bons entraîneurs, qui ont su garder un équilibre très sain dans ma formation. Ça a été l'essentiel pour moi de ne pas brûler d'étape.
Alors certes, Félix Auger-Aliassime n'a toujours pas remporté le moindre titre, mais le Québécois, partout où il se trouve, est devenu une attraction. Toute cette agitation ne le perturbe pas. Ce garçon parfaitement éduqué possède des valeurs qui lui servent de garde-fou.
Si plus tard, je trouve que je ne me ressemble pas et que je ne suis pas un bon exemple pour les autres, tout ça, ça ne sert à rien. Après, je restais fidèle à moi-même, donc je ne serais pas fier en me couchant le soir si j'ai fait des choses qui ne me ressemblent pas vraiment.
Pour l'heure, Félix Auger-Aliassime mène une carrière exemplaire, sans fausse note, bien encadrée par ses deux entraîneurs, Guillaume Marx et Frédéric Fontan, tous les deux français, mais employés par la Fédération canadienne.
Enfin Laurence, cette histoire qui se termine bien, c'est une femme qui aura survécu plus de deux semaines au milieu de nulle part.
Une femme de 35 ans, résidente de Hawaï, disparue le 8 mai dernier, elle a été retrouvée à bout de force, mais bien vivante. Amanda Heller s'était perdue lors d'une randonnée, elle s'est retrouvée coincée, légèrement blessée dans la forêt au fond d'un ravin. Et c'est un vaste élan de solidarité qui a permis de la retrouver. La correspondance à New York de Loïc Loury.
Amanda Heller est vivante. Voilà les quelques mots postés vendredi sur la page Facebook dédiée aux recherches. 17 jours d'angoisse pour cette femme de 35 ans, partie en randonnée sur l'île de Maui au centre du Pacifique. Cette professeure de yoga et physiothérapeute s'était retrouvée perdue, blessée, isolée dans le lit d'un ruisseau. Une photo montre ses chevilles couvertes d'ecchymose. Elle s'est exprimée en larmes depuis l'hôpital.
Ces 17 derniers jours ont été les plus durs de ma vie. Il y a eu des moments de peur panique, de solitude, des moments où je voulais abandonner. Et c'était une question de vie ou de mort, j'ai dû choisir. J'ai choisi de vivre, je ne voulais pas partir aussi facilement.
Le 8 mai dernier, son compagnon avait été le dernier à voir la jeune femme. Sa voiture avait été retrouvée à proximité d'un sentier de randonnée. La suite, c'est un vaste élan de solidarité. 70 000 dollars récoltés, permettant notamment de lancer des recherches par les airs. C'est justement un hélicoptère qui a repéré Amanda Heller. 7 kilos de moins, mais en bonne santé. Voir la façon dont mes proches et tous ces anonymes se sont mobilisés, dit-elle, ça me réchauffe le cœur. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et on retrouve Éric Delvaux pour la suite du 6-9.
Merci Laurence Thomas.